cavall calage.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Cavalcalade, en direct sur Radio Calade, 100.9 FM. Bonjour Mathieu.
Bonjour Elodie, salut.
Bonjour Jean, Jean Gattel, Monsieur Gattel.
Bonjour Elodie.
Bonjour. Alors, notre émission de ce jour a pour thématique l'économie sociale et solidaire avec notre invité Jean Gattel. Alors, je vais vous présenter Jean Gattel. Jean Gattel, professeur des... Alors, vous m'arrêtez, hein, je ne sais pas si je te tutoie, je te vouvoie, comment...
Tu me tutoies.
Alors, je vais te tutoyer avec plaisir, Jean. Alors, une brève présentation. N'hésite pas à rebondir, à modifier mes informations si elles ne sont pas justes ou à les compléter. Donc, professeur d'économie de formation... Tu es entré en politique en 1978, député en 1981, secrétaire de la Commission à la Défense à l'Assemblée nationale, secrétaire d'État au ministère de la Défense en 1983, puis secrétaire chargé de l'économie sociale auprès du Premier ministre de 1984 à 1986. Mais pas que, tu es aussi professeur d'université, consultant, et auteur de déjà 3 bouquins, me semble-t-il. Alors, demain, il sera trop tard.
Oui.
Itinéraire d'un socialiste perdu.
Oui.
Et l'économie sociale et solidaire.
Oui, tu les as donnés à l'inverse de l'ordre chronologique. ça n'a pas d'importance. J'ai écrit d'abord l'économie sociale et solidaire pendant la pandémie pour laisser une trace de mon passage dans ce merveilleux ministère que j'ai eu la chance d'occuper de 84 à 86. Puis ensuite, dans un moment de blues politique, j'ai écrit Itinéraire d'un socialiste perdu, dont le titre révèle bien le contenu. Et enfin, je voulais faire une suite au premier livre sur l'économie sociale, un nouveau modèle de développement, en rentrant un petit peu plus dans précisément ce que pouvait être un nouveau modèle de développement à une période où l'humanité roule vers des lendemains très difficiles. Et donc c'est pour ça que j'ai intitulé le troisième livre « Demain il sera trop tard » et le sous-titre c'est un essai sur la crise systémique du modèle capitaliste.
D'accord. Merci de m'avoir repris sur la chronologie. Alors Jean, je pense qu'il est important pour nos auditeurs de définir l'ESS, l'économie sociale et solidaire, parce que tout le monde en parle, tout le monde connaît l'ESS, mais finalement, est-ce qu'on sait exactement ce que c'est ? À quoi ça sert ? Quel est son rôle ? Et quels sont tous les métiers qui font partie de l'ESS ? Alors, je vais donner une petite définition de l'ESS. Pareil, hein, Jean, tu me reprends, tu complètes. Donc l'ESS, l'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Qu'en penses-tu, Jean ?
Ben c'est parfait, tu as tout dit. Je crois qu'il faut surtout insister sur le mot entreprise, hein, parce que bon, l'économie sociale et solidaire, c'est le concept général qui regroupe les 4 familles dont tu as parlé, c'est-à-dire les mutuelles, les coopératives, les associations, les fondations, et il faudrait y ajouter depuis la loi du 31 juillet 2014 les entrepreneurs sociaux. Tu as dit l'essentiel, ce sont des entreprises qui entreprennent, dans lesquelles les hommes et les femmes à l'intérieur de ces entreprises entreprennent autrement, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres finalités que les entrepreneurs classiques qui sont essentiellement mus par la recherche du profit, enfin pas tous, mais enfin majoritairement. classement dans les grandes entreprises, c'est le profit qui est recherché. Dans les entreprises de l'économie sociale, c'est autre chose. Hein. C'est œuvrer plutôt pour le bien commun, oui, enrichir la société dans son ensemble, lutter contre les inégalités, travailler dans les domaines indispensables pour la cohésion d'une société, du social et de l'environnemental.
Oui.
Et puis surtout, ce sont des entreprises qui ont une valeur fondamentale qui est la non-lucrativité, c'est-à-dire que les bénéfices dans l'entreprise ne sont pas distribués à des actionnaires ou à des propriétaires d'actions ou autres, mais sont réinvestis dans l'entreprise. Voilà, donc ce sont des entreprises pour lesquelles la finalité est bien le partage, et bien l'enrichissement collectif et non pas l'enrichissement individuel. Alors, depuis la loi cadre du 31 juillet 2014, on tolère une lucrativité limitée pour les sociétés, pour certaines sociétés commerciales, SAL, SAS, qui veulent rentrer dans le champ de l'économie sociale en se dotant d'un label qui s'appelle label ESUS, mais elles sont vraiment l'exception. La règle générale, c'est la non-lucrativité. Ce qui ne veut pas dire, hein, et j'insiste parce que très souvent les gens font des confusions, ça ne veut pas dire que ces entreprises-là ne font pas de bénéfices. Au contraire, il faut qu'elles en fassent, qu'elles en réalisent comme toutes les entreprises. Mais ce bénéfice n'est pas capté par des personnes individuelles et ne donne pas donc naissance aux fortunes insultantes pour le commun des mortels que l'on connaît à l'heure actuelle. Elles ont également d'autres caractéristiques, ces entreprises de l'économie sociale, hein, qui d'ailleurs un petit peu découlent de leur valeur fondamentale de non-lucrativité. Mmh. Elles sont des entreprises dans lesquelles doivent s'exercer des gouvernances démocratiques, c'est-à-dire que normalement, tous les membres de l'entreprise doivent être associés aux grandes décisions, être consultés et être partie prenante de l'entreprise et non pas accepter une règle pyramidale descendante dans laquelle les gens sont souvent uniquement que des pions sur un échiquier. Alors bon, ce sont les grands principes. Hein. Malheureusement, la réalité n'est pas toujours celle-là. Nous avons également parfois dans l'économie sociale des mauvais élèves, hein, qui ne respectent pas ces principes, en particulier de gouvernance partagée, mais bon, en règle générale, l'éthique prévaut dans ces entreprises qui représentent à l'heure actuelle quand même des données substantielles, puisqu'on estime qu'il y a 2 600 000 salariés qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire à peu près 15% de la population active salariée.
J'ai quelques chiffres, Jean, pour compléter, justement, j'allais le donner. Donc déjà, effectivement, hein, l'économie sociale et solidaire, c'est un mouvement de pensée qui est né, qui est héritier du siècle des Lumières. L'idée est de faire évoluer la rentabilité avec l'utilité. Ne pas les opposer, mais permettre à des entreprises de consolider solidarité, performance économique et utilité sociale.
Donc, et environnementale.
Et environnementale. Donc l'économie sociale et solidaire représente 10% du PIB, quand même, il faut le dire. Un petit peu plus.
Oui, 12,5.
Oh, merveilleux, merci. Et c'est une bonne nouvelle, mais aussi 14% des emplois privés en France. Et ça, c'est pas rien.
Oui, c'est même 15 maintenant. Il faut revoir les chiffres, chère Élodie, parce que l'économie sociale, elle bénéficie d'un dynamisme assez extraordinaire depuis un demi-siècle. Elle ne cesse de croître. Hein. Lorsque j'étais secrétaire d'État, par exemple, dans les années 80, il y avait simplement 8 salariés. Il y en a maintenant 2,6 millions, 2,7 millions. Donc tu vois à peu près la vitesse de croissance.
Nous sommes dans la bonne direction.
Oui, tout à fait.
Les métiers de l'ESS, mon cher Jean, tous les acteurs de lien social, familiales, les aides, les acteurs du soin, du service à domicile, de l'animation, tout ce qui touche au foyer, résidence sociale, services pour les jeunes, logements sociaux, mutualité, santé, radiodiffusion associative, régie de quartier, sport, tourisme social et familial.
Oui, tu as à peu près tout dit. Moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus juridique, c'est-à-dire donc l'économie sociale est très présente dans le domaine de la santé par les mutuelles, hein, en complément de la sécurité sociale. Dans les coopératives, on a beaucoup de coopératives de production, donc qui sont directement liées à la création de richesses, de biens et de services, hein, en particulier les SCOP, les sociétés coopératives de production, et les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, le gros bataillon de l'économie sociale en termes d'emploi, ce sont bien sûr les associations dont tu as très bien dresser le portrait. Hein. Elles sont présentes de partout, dans le secteur sanitaire et social, dans le secteur environnemental, dans le secteur des services à la personne, dans le secteur éducatif, dans le secteur de la formation, dans le secteur du tourisme durable. Bref, elles couvrent tous les champs de la vie humaine.
Je crois que la crise sanitaire qu'on a traversée dernièrement avec la crise Covid, permet à notre société de remodeler l'économie. On a vu la production de masques, l'éducation en ligne, les services sociaux ont été extrêmement actifs. D'ailleurs, il me semble savoir que l'ONU reconnaît l'économie sociale et solidaire depuis le 18 avril 2023, et elle a adopté une résolution sur la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable.
Oui, c'est une avancée fantastique, hein, pour nous, militants de l'économie sociale, qui étions un petit peu isolés, pays par pays, hein, de savoir que désormais, notre modèle d'entreprendre est reconnu de façon universelle. Et cette décision de l'ONU, hein, est pour nous, effectivement, la récompense des efforts des militants qui œuvrent dans ce secteur pour le mieux-être social et environnemental. Et on voit d'ailleurs se dessiner face à la mondialisation capitaliste, hein, qui ne fait pas que des heureux, tant s'en faut, hein, une mondialisation d'un autre modèle de développement économique, hein, équilibré, beaucoup plus juste, beaucoup plus rationnel, et qui est celui donc de l'économie sociale et solidaire en Europe, en Afrique, où je travaille beaucoup, hein, en particulier au Maroc. Et en Tunisie.
J'allais y venir, Jean. J'allais y venir. Ce modèle de pensée né en France.
Et en Angleterre.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es beaucoup à l'international, qui est très présent aussi à l'international, est-ce que c'est un modèle qui tend à se développer aussi en Europe et hors de nos frontières?
Ben, en Europe, il a toujours été très présent dans les pays du Sud, hein, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie et la Grèce, hein, où il y a une tradition historique de l'économie sociale, en particulier via les coopératives et les associations. On a, dans un premier temps, essayé de rayonner sur l'ensemble de l'Union européenne. Hein, les progrès sont perceptibles, même s'ils sont lents. Mm-hmm. Et puis, depuis une vingtaine d'années, et ça c'est extrêmement encourageant, hein, le concept d'économie sociale a franchi la Méditerranée et on le retrouve porté par des politiques publiques, en particulier au Maroc et en Tunisie, qui sont deux pays que je connais bien, puisque j'y donne des cours et des conférences. Et ensuite, si on va même plus loin, on voit un développement de ce secteur, hein, dans l'Afrique subsaharienne. Je pourrais citer en particulier le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso. Bon, même si ce sont des pays qui sont confrontés à des situations politiques extrêmement difficile. Et puis l'un des pays les plus performants, hein, même si j'aime pas beaucoup ce terme de performance, surtout concernant l'économie sociale, parce que je ne sais pas où est la performance dans le social, mais c'est l'Amérique du Sud, hein, dans lequel il y a une très vieille tradition de coopératives, de responsabilité villageoise, d'économie villageoise et des formes d'organisation de proximité qui sont extrêmement riches en termes d'expérience.
Je suis un tout petit peu surprise finalement parce que je vois le développement de l'économie sociale et solidaire à travers le monde. Je vois le rayonnement de notre façon de penser qui commence à s'étendre sur l'Afrique, sur de nombreux pays. Pourtant, le paradoxe, c'est que là, je te prends une petite info très actuelle. La Conférence internationale du travail, CIT, elle vient d'adopter une résolution qui reconnaît le rôle de l'économie solidaire, sociale et solidaire dans le travail. Et ça, elle propose une définition universelle, mais j'ai l'impression que dans notre propre pays, la reconnaissance de ce nouveau mouvement, pas nouveau justement, de ce mouvement économique, de cette vision, elle est en train de elle progresse tout doucement dans notre pays et déjà elle dépasse nos frontières.
Le fait que nous soyons jamais arrivés à faire exploser le plafond de verre, comme on le dit trop souvent maintenant pour tout et n'importe quoi, c'est que les militants de l'économie sociale et solidaire, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, ont peut-être négligé les canaux de la communication. Et donc, nous avons un déficit de connaissances, de communication, qui est effectivement réel et qui est très dommageable pour le secteur, parce qu'on le connaît mal, on le connaît peu. Et pourtant, tu l'as cité, les chiffres sont là. Oui. Mais bon, on se heurte quand même dans les pays à l'idéologie dominante qui est celle du capitalisme néolibéral, qui ne conçoit l'entreprendre que par l'entreprise classique par action et par le capitalisme traditionnel, et donc qui n'a pas du tout intérêt à mettre en valeur une autre forme d'entreprendre que celle qu'il prône et qu'il valorise. Oui. Nous sommes un petit peu une épine dans le pied de l'idéologie dominante, nous revendiquons d'ailleurs comme telle, et cette économie dominante, elle domine tout, y compris les grands canaux de communication, et c'est vrai que c'est pas encore demain que l'on parlera sur CNews ou LCI de l'économie sociale et solidaire, parce que précisément, c'est le contre-modèle de l'idéologie dominante sur lequel s'appuie le pouvoir politique en place.
Et c'est pourquoi on en parle sur Radio Calade.
Mais oui, heureusement qu'il y a des radios associatives qui ont été autorisées par le président Mitterrand en 1981. Il ne faut quand même pas l'oublier, cet énorme progrès dans la communication.
Allez, une petite touche musicale sur ces très belles paroles. Qu'est-ce qu'on écoute, Jean ?
On écoute un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Louis Aubert et vous allez découvrir la chanson qui est un petit peu sur toutes les lèvres en ce moment.
Merci.
Bien sûr, mon amour, ensemble, on va gagner. On va flotter.
Et c'était bien sûr avec Jean-Louis Aubert. Et vous êtes de retour dans l'émission Cavalcalade avec notre invité Jean Gattel, avec qui nous parlons de l'économie sociale et solidaire. Alors, Jean, peux-tu me donner, s'il te plaît, des actualités du développement de l'économie sociale et solidaire en France ?
Ben, elle continue à mener sa jolie vie, hein, puisque le secteur se développe au rythme de 2,5 à 3% par an. Hein,
très bien,
très
bien. Ce
qui est un résultat assez stupéfiant quand on voit la léthargie des autres acteurs.
Nécessaire, peut-être.
De l'économie. Nécessaire, oui.
Bien sûr.
Je pense en particulier au mouvement associatif, parce que ce mouvement associatif, tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est lui qui part au plus pressé, quoi. Hein. Lorsqu'il y a des nouvelles demandes sociales, lorsqu'il y a des problèmes, il faut pas trop attendre de réponses du secteur.
Au front, les associations, oui.
Du secteur administratif. Hein, ce sont les associations qui sont en première ligne et on l'a bien vu au moment du Covid, hein, en particulier toutes les associations qui ont permis de maintenir le lien social, d'éviter des catastrophes alimentaires. On a vu le rôle joué par les Restaurants du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique. Bon, donc là, il y a véritablement, et puis toutes ces associations qui luttent contre les exclusion, contre tous les gens qui sont en situation de souffrance, les gens qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. C'est le mouvement associatif qui répare la société.
Oui. Hein.
Et donc, on a là une chance incroyable d'avoir un lien social qui se maintient, et c'est ce qui explique vraisemblablement la croissance permanente des effectifs des salariés dans l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant pour nos auditeurs, c'est de leur dire que malgré les conjonctures, par exemple au niveau de la crise financière de 2008 ou autres accidents conjoncturels de l'économie dominante, l'économie sociale, elle continue à progresser invariablement de 3% par an. Hein. Donc ça montre bien sa vivacité et surtout sa nécessité dans une société qui est de plus en plus fracturée, dans laquelle il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de douleurs sociales. Et le mouvement associatif, il est là.
C'est ce que j'allais demander. Est-ce que le développement de cette économie, ça veut dire qu'on vit dans une société plus sociale et plus solidaire que... Vous avez dit, dans les années 80, il y avait 800 000 personnes qui travaillaient dans cette économie. Aujourd'hui, 2 millions, je crois que c'est
ça. Parce que d'un éternuement très pénible. Parce que si vous voulez, en un demi-siècle, nos sociétés, après les 30 glorieuses, ont complètement explosé, quoi. Il y a eu d'un côté des gens qui sont devenus très 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 riches, hein, trop, d'une façon absolument insupportable d'ailleurs, et puis beaucoup de gens qui sont rentrés dans des conditions de vie très précaires et très difficiles, y compris d'ailleurs une partie des classes moyennes, et même des gens qui sont des travailleurs à part entière, mais qui se sont paupérisés. Donc, cela a entraîné la naissance de filets de protection, hein, en particulier dans le domaine social, médical, au niveau du logement, que gère en grande partie le mouvement associatif, mais pas que. Hein, il y a également des coopératives qui sont présentes dans les services à la personne. Et le fait que nos sociétés deviennent des sociétés de plus en plus de jungle, hein, parce qu'on voit bien que le capitalisme qui est en bout de course, hein, et a tendance finalement à exacerbé les différences de classe et les différences sociales. Et il faut donc que l'économie sociale tienne son rôle de réparation avant éventuellement d'avoir un rôle de transformation, hein, parce que nous sommes beaucoup dans l'économie sociale à penser que le modèle de développement capitaliste vit ses derniers jours, hein, dans des souffrances d'ailleurs qui vont être terribles, hein, liées en particulier aux conditions écologiques et climatiques, hein, et qu'il faudra bien un jour ou l'autre penser à un autre modèle de développement qui soit plus respectueux des hommes et de la nature.
Alors, je crois savoir qu'actuellement, l'économie sociale et solidaire est évaluée.
Oui, c'est ça. C'était prévu dans la loi, la grande loi de l'économie sociale. Hein, elle est arrivée, on pourrait dire seulement, hein, en 2014. C'est la loi dite de Benoît Hamon, qui était ministre de l'économie sociale. Hein, presque 30 ans après le premier secrétariat d'État que j'ai eu la chance d'occuper, sous la présidence de François Hollande. Donc il y a une loi qui s'appelle une loi cadre, hein, qui a véritablement fixé les contours, les valeurs, le vadémécum en quelque sorte de l'économie sociale. Et il était prévu en faisant également quelque chose qui apparaissait dans mon secrétariat d'État, le lien entre économie sociale et développement territorial. Nous sommes à l'heure actuelle dans une période où la mondialisation montrant ses limites, on revient à des régulations de type territorial et le lien avec l'économie sociale est très fort. Alors donc je termine, hein, en 2014, il avait été prévu qu'il y ait une révision, hein, de la loi 10 ans après, donc on arrive, hein, 2024. Donc on est en train d'évaluer ce qu'ont été ces 10 ans, hein, d'économie sociale et solidaire en France, et essayer peut-être d'apporter des corrections. Mais en grande partie, tout le monde est très satisfait de ce qu'a été la loi, de ce qu'elle a apporté. Il y aura donc des modifications, à la marge, quoi. À marge. Surtout pour rappeler aux acteurs de l'économie sociale le fait que dans leurs entreprises, ils doivent appliquer une gouvernance partagée, parce que c'est peut-être là où pêche le plus l'économie sociale. Hein. Dès qu'elle prend une certaine dimension, il est difficile de faire continuer, de faire jouer à l'intérieur de l'entreprise une démocratie totale, hein, dans la prise de décision. Et il y a beaucoup de dérives à l'heure actuelle, en particulier dans le mouvement mutualiste ou bien le mouvement bancaire coopératif, hein, qui dérape un petit peu sur ces valeurs de gouvernance partagée.
Oui. Alors, l'économie sociale et solidaire se poursuit après notre émission tout le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Je vous invite à vous rendre sur le site moi-ess.org ou alors le-moi-de-l-ess pour connaître toutes les animations qui auront lieu au courant octobre autour de chez vous. Donc il y aura la semaine de la finance solidaire, le festival des solidarités, la semaine des achats socialement et écologiquement responsables, la semaine européenne de la réduction des déchets et les journées de l'économie autrement. Eh bien écoutez, on va clôturer. Dis-moi.
N'oublie pas de dire que pour les gens qui veulent continuer à suivre l'actualité de l'économie sociale et même à communiquer avec moi, que j'ai une page Facebook, hein, qui s'appelle Jean Gattel, tout simplement, et je serais ravi de pouvoir éventuellement les renseigner, les aider, satisfaire leur curiosité, échanger. Voilà, ma page est grande ouverte. J'ai également une page Instagram, mais bon, je préfère ma page Facebook où chaque jour je plaide pour l'économie sociale et solidaire.
Et monsieur Jean Gattel est un personnage très très accessible avec qui on peut vraiment discuter. C'est d'ailleurs c'est un plaisir et je te remercie, hein, d'avoir participé à notre émission.
Je vous en prie. Bah, écoutez, quand on est militant, on milite.
Exactement.
Au quotidien.
Sur les bonnes ondes. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. Et puis au plaisir sur Radio Calade dans la prochaine des Cavalcalades.
À très bientôt.
Merci,
au revoir, Jean.
Merci. Au revoir.
La cavalcade.